Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de celui qui change des couches, c'est Ben.
Salut à tous.
De Marvin.
Salut tout le monde.
Et de celui qui s'est fait traumatiser sur Resident Evil 2, c'est ATH.
Bonjour, bonsoir tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons de Catherine Fullbody. On enchaînera ensuite sur la Team Cherry. Nous évoquerons le Nintendo Direct et Dieu sait qu'il y a des choses à raconter. On parlera de THQ Nordic qui n'arrête pas de dépenser du pognon. Nous évoquerons Telltale, Chucklefish qui nous parle du crossplay. On fera un peu de pub parce que c'est bien, surtout quand la vidéo dont on va parler est excellente. Et enfin, on terminera avec ces gros bâtards d'Activision. Et oui, parce qu'ils le valent bien. Sans oublier notre jeu du moment, c'est un jeu qu'on a déjà évoqué ici, c'est Resident Evil 2. ATH et moi, on l'a terminé. Enfin, on a terminé au moins un des scénarios. Je vous avoue que le scénario B, pour le moment, j'ai toujours pas terminé parce que j'ai eu le malheur de le lancer en hardcore et que je pleure des larmes de sang. Voilà. Bon, messieurs, c'est parti. Ben.
Ouais.
Tu débutes ce podcast avec l'annonce du jeu que je pense à ATH chez moi on attend, c'est Catherine Fullbody.
Et voilà, donc Catherine Fullbody est annoncée sur PS4 pour le 3 septembre, en tout cas pour la version européenne. C'est marrant parce qu'il est sorti le jour de la Saint-Valentin au Japon. Quand on connaît le concept du jeu, c'est assez marrant.
Oui, c'est assez cocasse.
Ouais. Donc ben, pour ceux qui l'attendent, vous allez pouvoir bien en baver parce qu'ils ont rajouté encore, donc à l'origine ce jeu c'est un triangle amoureux, ils ont rajouté un personnage de plus, donc voilà, un peu plus encore d'embrassement, de possibilités, il y a des modes de difficulté en plus, et donc je crois que toi Tyrant tu l'avais fait, si je dis pas de bêtises, et que déjà tu le trouvais assez difficile à l'époque.
Ah oh oui, c'est pas un puzzle game facile, hein. Je pense que t'es d'accord avec moi TH.
Ouais, non, moi... En général, je joue au jeu au mode normal. Celui-là, je vous le dis clairement, j'ai fait en mode facile. Parce que c'est un puzzle game avec une histoire derrière. Mais par contre, la partie puzzle game, elle est quand même assez hardcore.
Elle est démoniaque.
Ouais, non, mais c'est un jeu, comme tu vois comme ça, tu dis, oh, c'est un dessin animé, ça a l'air sympa, je peux y jouer la main dans le slip. Et bah non, c'est un jeu, il faut avoir des réflexes, mais aussi il faut réfléchir. C'est un peu un mix entre Tetris et un jeu de domino, quoi. Il faut vraiment savoir où se placer. Et anticiper surtout les actions et avoir au moins 2-3 avances sur les actions qu'on va faire. Sinon, c'est très très compliqué d'arriver au bout du puzzle.
Alors, ATH, je vais te poser une question. Est-ce que c'est pas un peu le Dark Souls?
Joker. Je refuse de répondre à cette question.
J'annule l'enregistrement de ce podcast.
C'est ça. Juste une précision. Pourquoi je suis très favorable à ce qui n'est finalement qu'un portage, alors que la semaine dernière, je descendais par exemple Assassin's Creed 3? Bah parce que là, on nous rajoute des trucs en fait, des trucs intéressants. De l'histoire, des nouveaux puzzles. Enfin, c'est intéressant, tu vois. C'est un minimum d'intérêt, quoi. Voilà.
Mais après, moi, je veux voir ce que le troisième personnage va apporter, le troisième personnage féminin. Ouais. Si c'est un vrai arc narratif, pourquoi pas, parce que le jeu à l'époque il était vraiment chouette et du coup peut-être que j'essaierai de le faire en mode normal. Mais si c'est un personnage voilà qui n'apporte rien à l'histoire et qu'il est, c'est artificiel en fait la façon dont il était rajouté, je vais pas repasser à la caisse. Mais franchement, si vous l'avez pas fait à l'époque, je vous le conseille. En plus de ça, il y a vraiment des passages animés assez chouettes. Bah c'est Atlus, c'est les mecs qui ont fait Persona, donc si vous voyez un peu le délire visuel, ça y ressemble un peu. Voilà, c'est un très bon jeu, moi je le conseille quand même assez fortement pour ceux qui n'ont pas joué.
Donc après, pour terminer, moi ce que je trouve intéressant avec ce nouveau personnage, c'est que je trouve qu'il s'intègre assez bien à la narration. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait deux personnages, Catherine avec un C, qui était un peu la tentatrice, Catherine avec un K, qui était un peu la femme forte, la femme de la vie de Vincent. Et là, on a ce nouveau personnage qui vient s'ajouter, qui a l'air un peu ingénu, un peu innocent, qui a un caractère qui contraste avec les deux autres. En tout cas, pour le moment, je trouve qu'elle s'intègre plutôt bien. Elle ajoute quelque chose au jeu, quoi. Bon, messieurs, nous allons enchaîner avec la suite du meilleur jeu de 2017. Hein, voilà. Si vous n'avez toujours pas fait le meilleur jeu de 2017, donc All the Night, faites-le. Hein, c'est un excellent jeu. On a eu droit à l'annonce suite au Nintendo Direct. Alors, c'est pas forcément lié, mais comme il va sortir sur Switch, ils en ont profité. C'est Hollow Knight Silksong. On va jouer un des personnages secondaires du jeu de base. D'ailleurs, à la base, il faut savoir que c'était l'un des stretch goals du Kickstarter originel. Ça devait être un personnage qui allait être disponible en quelque sorte en DLC. Puis, à force de rajouter des éléments, etc., ils se sont dit, bah écoutez, en fait, on s'est dit que finalement, on allait faire une suite. Hein, parce que pourquoi pas. Il y a quasiment autant d'ennemis si ce n'est plus que dans le jeu original, il y a autant de boss si ce n'est plus. Donc voilà, tant qu'à faire, on va faire une suite quoi. Ah et d'ailleurs, pour ceux qui nous avaient financé sur le Kickstarter, hein, comme on vous avait dit, c'était un stretch goals, ben vous aurez la suite de Hollow Knight qui sera gratuite.
Ah ouais.
Je trouve ça décevant quand même hein.
Ouais, franchement, espèce de radin, vous auriez pu nous filer du pognon avec, en plus.
C'est ça, voilà. Voilà.
Les intérêts.
Respecter ses promesses. Non, mais dans quel monde on vit, quoi?
Inadmissible, vraiment. Non, mais voilà, respect. Et puis, en plus, bon, comme d'habitude, la DA défonce. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils ont un budget un peu plus conséquent qu'à l'origine. Déjà qu'à la base, le jeu défonçait, bah maintenant, quand je vois la suite... ça fait envie.
Mais si tu regardes déjà ne serait-ce que le détail des décors et tout, tu vois que c'est plus travaillé. Le jeu d'origine était bien. Ouais. Bon, tu voyais que c'était quand même un petit jeu indé. Là, tu peux voir que dans le, ils sont passés un niveau au-dessus, quoi.
Bah, ils peuvent prendre le temps maintenant, quoi.
Il y a un petit côté Cuphead, je trouve, dans ce trailer.
Ouais.
Pas aussi bien fait que Cuphead, parce que Cuphead, ça a vraiment été fait à la main.
Bah, surtout, c'est des psychopathes qui ont passé des années voilà. Sur ce projet-là, donc voilà.
Mais là, vraiment, la part artistique, je trouve, ressort encore plus que dans le jeu de base. Alors après, peut-être que c'est une impression que j'ai, hein. Mais j'ai l'impression que vraiment, que les décors, ils sont pas que en second plan, quoi. J'ai l'impression vraiment que t'es aspiré dans le décor en même temps que tu joues, c'est assez joli. Voilà, après, j'ai peur que ça soit un petit peu trop fouillé en action, mais bon, le jeu de base était très bon, donc je pense que la lisibilité, c'est quelque chose qu'ils connaissent aujourd'hui, tu vois.
Bon, en plus, moi, à titre personnel, ça m'intéresse parce que on va jouer Ornette, qui est un de mes personnages préférés du jeu de base, qui, bah, justement, finalement, n'était pas tant développée que ça. Enfin, on la croisait souvent. Elle avait une histoire qui était vachement intéressante, je trouve.
Ouais, elle avait un rôle important, mais tu la voyais pas si souvent.
Voilà. Et du coup, pouvoir un peu creuser le personnage, la voir évoluer, etc., bah, moi, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, quoi.
Et vous qui avez joué au précédent jeu, vous avez il y a une véritable différence en termes de gameplay?
Alors, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est beaucoup plus speed que le Knight original. Mmh. On va pas se mentir, ça se voit qu'à l'origine c'est un DLC, il y a quand même beaucoup de similarités, hein, ça reste une suite.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Mais par contre, là où je les attends en tournant, c'est de voir ce qu'ils vont proposer en termes de nouveaux pouvoirs. Parce que finalement, c'est ça la richesse de Hollow Knight, c'est-à-dire que fondamentalement, tu vois, le gameplay de base de Hollow Knight, il est pas révolutionnaire, hein. C'est un Metroidvania, tout ce qu'il y a plus de classique. Mmh. Et ce qui le rend intéressant, c'est toutes les combinaisons de pouvoirs que tu peux faire dans le jeu, c'est-à-dire que Hollow Knight, je le rappelle, c'est un jeu où tu récupères des badges et chaque badge en fait représente un pouvoir particulier. Et en fait, en faisant des combinaisons entre ces badges, tu vas pouvoir créer des combos, etc., qui sont vachement intéressants.
Changer ton style de jeu, en fait, tout simplement, suivant comment t'es équipé. Ouais.
Et donc finalement, tout l'intérêt de cette suite va reposer sur la capacité des développeurs à créer des nouveaux badges, parce que là, bon, ils ont changé la forme, mais c'est clairement les badges de Hollow Knight hein, qu'elle va utiliser. Ils vont appeler ça autrement, mais c'est la même chose. À créer des badges qui vont introduire un gameplay différent du personnage d'origine, quoi, tout simplement. ATH.
Oui, pour répondre à Mordren, est-ce que tu as joué à Shovel Knight?
Non.
Parce que Shovel Knight, il y a plusieurs personnages qui ont été ajoutés au fur et à mesure des DLC. Il y avait Plague, après il y a eu le DLC Spectre of Torment. C'était le même univers, mais le gameplay changeait avec les personnages qui avaient des nouvelles capacités.
Ouais.
J'ai un peu l'impression qu'avec ce DLC-là, on va dans le même délire. Et pour conclure sur ce que disait Tyran, l'originalité du jeu aussi, c'était quand même son univers. Où il y a beaucoup d'insectes et ça se passe en fait sous terre. Et vraiment, c'est un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus dans le jeu vidéo, donc c'était la chose originale de ce jeu-là.
Alors pour le coup, je vais encore dire Dark Souls, mais là, il s'inspirait de Dark Souls dans le sens où il y avait beaucoup de non-dits. Mais par contre, là où il était intéressant par rapport à Dark Souls, c'est qu'il y avait des dialogues aussi. Il y avait de l'humour. C'est un jeu qui a porté sa pierre à l'édifice tout en s'inspirant des principaux cadors du genre, tu vois. Et il le faisait. Très bien. Dernier point que je trouve intéressant, c'est que en termes d'ambiance, ils vont aller un peu à l'opposé de Hollow Knight. C'est-à-dire que Hollow Knight, le thème du jeu, c'était un peu le personnage qui descend de plus en plus profondément les abysses et qui va chercher ce qui se trouve au plus profond de la terre. Et là, justement, Ornette, elle, ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va s'élever de plus en plus dans les cieux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de thématique sur les décors, etc. Ils ont vraiment l'air d'aller dans un autre délire. Donc vraiment très hypé, encore une fois le jeu de 2017, hein, meilleur jeu de 2017, j'arrête pas de le dire, j'adore ce jeu, voilà. Messieurs, nous allons maintenant passer à la suite. Et Mordrain, ben il y a un gros morceau là.
Ouais.
Bon, le Nintendo Direct où il n'y a pas eu d'image des Pokémon, désolé. Enfin, en même temps, je sais pas ce que vous attendiez, hein, mais voilà. Non, il n'y a pas eu d'image de Pokémon, mais par contre, il y a eu deux trois petites choses quand même. Hein.
Ouais, il y a pas mal de trucs. Alors pour ceux qui se sont éventuellement formalisés du fait qu'il n'y ait pas eu de nouvelles sur Pokémon, ben, c'est simple en fait. C'est un Nintendo Direct qui était vraiment dédié à ce qui va se passer plutôt vers le printemps, début de l'été en fait pour la Switch.
Sur le prochain mois, quoi, tout simplement.
Ouais.
C'est ce qu'ils font tout le temps, en plus, hein. Je sais pas pourquoi les gens sont surpris, c'est ce qu'ils font tout le temps, quoi.
Donc, la première chose dont on a entendu parler dans ce Nintendo Direct, c'est Super Mario Maker 2, qui arrive sur Switch en juin. Voilà, plutôt cool. Donc, a priori, ça sera un 2 et pas un portage de la version Wii U.
Oui, enfin, encore une fois, si c'est un 2 comme Splatoon 2...
Ah bah, bien sûr.
Non, mais Tyran, t'as pas compris. Dans le 2, on pourra faire des dénivelés pour avoir des niveaux en pente. Ça change tout.
Voilà.
Donc faudra certainement m'expliquer comment on peut apporter beaucoup plus de choses que ce qui était déjà dans Super Mario Maker, mais bon, c'est pas grave, on verra ça en juin. Autre gros morceau de cette présentation, c'est bien sûr Fire Emblem, dont le sous-titre est Three Houses, qui est prévu pour le 26 juillet sur Switch. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire, à part que bon bah il y aura un scénario autour de trois grandes maisons, a priori plutôt rival. On y incarnera un professeur, donc ce qui est plutôt étonnant pour la licence. Et
bah,
donc...
Surtout comment on va pécho, quoi, bordel, merde. Moi, je suis désolé, est-ce que c'est encore Fire Emblem si on peut plus pécho, parce que c'était un peu devenu ça le thème central de la série, quoi.
Donc bon, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt joli, en tout cas sur les phases de dialogue, un peu moins sur les phases de combat, j'ai trouvé que les décors étaient un peu pauvres.
Bah ça fait un peu Fire Emblem GameCube.
Alors il y a un poil plus de d'unité du coup autour des personnages, mais c'est grosso modo ça. Autre chose, et là pour le coup je crois que c'est une nouveauté parce qu'on n'en avait pas entendu parler, une exclusivité Switch qui est le nouveau Platinum Games et qui n'est pas Bayonetta 3, ça s'appelle Astral Chain. Je sais pas si ça vous a tapé dans l'œil, vous trois.
Bah intéressé maintenant, le truc c'est que Platinum Games, je me méfie de plus en plus de ce qui sort. Pourquoi ? Parce que ils bossent sur plein de projets, hein, ce moment. Je sais pas si vous avez vu récemment, ils se sont fait éjecter du développement de Grand Blue Fantasy. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais non, c'est pas parce que ils bossent plus sur projet, qu'ils se sont fait éjecter. Écoutez, je suis désolé, à un moment donné, quand tu retires le logo d'une boîte d'un projet, et que la boîte en face fait de même, a priori, c'est que ça s'est pas bien passé. Hein, voilà.
Mais Platinum Games, ils sont quand même capables du meilleur comme du pire. Hein. On l'a vu aussi avec Activision, quand ils ont fait les Tortues Ninja ou les Transformers.
Voilà.
C'était des jeux assez médiocres, sans être mauvais. Et ils ont fait aussi quand même le jeu Avatar qui était dégueulasse. Ils ont une réputation d'être des développeurs avec qui c'est assez difficile de travailler. Après, le jeu en lui-même, de ce qu'on en voit, c'est que bah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de chara-design, quoi. Enfin, personnellement, moi, j'ai voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire.
Bah, c'est de la japanime ultra classique. Quoi.
Ouais, voilà. Mais... Et puis, après, c'est Platinum Games. Platinum Games, je les attends pas forcément sur un scénario, sur un chara-design ultra léché, mais je sais qu'en termes de gameplay, les mécaniques, ils sont quand même assez bons, donc pourquoi pas, pourquoi pas.
Par contre, il me semble que Camilla s'en charge personnellement.
Il est directeur sur le projet.
Enfin, a priori, c'est pas un projet secondaire pour eux, parce que en fait, c'est ça le problème, c'est que par exemple, le Grand Blue Fantasy, a priori, ok, ils ont prêté leur nom pour la partie combat, quoi, mais finalement, leur application dans le projet était pas si grande que ça, visiblement. D'ailleurs, Grand Blue Fantasy, personnellement, ce qui m'a attiré le plus, c'était plus la partie artistique que le gameplay de ce que j'avais vu. Enfin bref, j'ose espérer qu'ils vont s'investir un minimum dans le projet.
Bah ouais, mais si Camilla quand même, en général, quand il est sur ses projets, le gameplay c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Le mec il a quand même bossé sur DMC à l'époque où la licence venait d'être créée, mais après ça va être voilà, plus l'aspect car design et tout qui me dérange un peu. Après peut-être que c'est pour que les textures et tout ne sont pas trop gourmandes pour que ça justement ça soit jouable avec un framerate stable sur Switch en mode nomade. Donc je pense qu'il y a aussi ça derrière, donc c'est pour ça que j'en veux pas trop sur ce coup-là, quoi.
Bon, le 30 août, c'est ça, Morgan ?
Le 30 août, exactement. D'ailleurs, je voulais vous faire remarquer que pendant la présentation, enfin juste avant la présentation ou après, il y a Koizumi qui a fait une espèce de petit clin d'œil en mode, je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux personnages dans ce jeu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une dimension coop dans ce jeu-là ? C'est une question qui peut se poser. La suite, avec une annonce très étonnante qui a beaucoup fait pleurer dans certaines chaumières,
bah,
en tout cas.
Disons qu'il y a des gens qui ont une haine particulière à l'envers du Battle Royale, donc forcément, voilà, c'est...
C'est Tetris 99, qui n'est autre que la version Battle Royale, oui oui, c'est possible, de Tetris. Donc c'est sorti en fait dans la foulée du Nintendo Direct, et c'est disponible gratuitement pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online. Et bah ma foi, en fait, comment ça se joue, c'est que bah vous avez une votre partie de Tetris classique, sauf que en même temps que vous jouez, bah il y a 98 autres personnes qui sont aussi en train de jouer à leur partie de Tetris, et évidemment il y a un certain nombre de paramètres qui font que bon bah on peut vous emmerder. Évidemment, il n'en reste qu'un, un seul gagnant.
Et moi, je
c'est particulièrement
oui.
Relevé en termes de niveau. J'ai fait une ou deux parties tout à l'heure. Je me suis fait défoncer.
Mais j'ai l'impression aussi qu'il s'inspire de Puyo Puyo Tetris, où
oui,
en fait
exactement.
Les adversaires pouvaient envoyer des blocs à l'autre pour le gêner dans sa progression. Et là, ouais. Je me demande juste comment ça doit être gérable. Quoi. Ça doit être un peu compliqué parce que s'il y en a trois qui se mettent sur ta gueule, par exemple, t'es premier, tout le monde veut pas que tu gagnes, donc ils vont tous t'attaquer. Et donc du coup, je pense qu'il y a peut-être des stratégies à mettre en place. Et oui. Si j'avais une Switch, moi, je pense que j'y jouerais parce que le concept, il a l'air tellement génial. Parce que Battle Royale, je pense que c'est plus là pour la blague qu'autre chose. Mais c'est pas vraiment un Battle Royale dans le sens.
Oui, parce que, enfin, moi, il y a des réactions, j'ai pas compris, quoi. Enfin, alors, je peux comprendre qu'on aime pas le Battle Royale, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut juste laisser sa chance au jeu avant de le juger, quoi, en fait?
Ouais,
tout simplement,
c'est clair.
Tu vois.
Surtout que là, en fait, c'est un jeu qui s'y prête parfaitement. En fait, le concept de Tetris, c'est un concept universel. Et le fait que, voilà, si tu joues sur Switch en mode nomade, tu peux emporter ta console n'importe où. Mais c'est juste, pour moi, une idée de génie. Surtout qu'ils ont eu la bonne idée, apparemment, de ce que Mardren m'a dit, de le mettre gratuit sur le Nintendo eShop. Si t'es abonné Nintendo Club ou je sais pas quoi. Et voilà, c'est un bon coup marketing.
Moi, j'appelle ça l'effet chouchou roquette.
En tout cas, c'est particulièrement malin parce que la semaine dernière, les gens qui gèrent du coup le Nintendo Switch Online disaient il faut qu'on réussisse à fidéliser les gens qui sont abonnés parce qu'à l'heure actuelle, ils sont uniquement sur l'abonnement mensuel. On veut qu'ils fassent un abonnement annuel. Et bien ça, typiquement, c'est le genre de truc qui marche bien à mon avis. Autre chose, alors il y a eu pléthore de portages qui ont été annoncés pendant le Nintendo Direct, je vais pas vous faire la liste totale, mais il y a Hellblade, il y a eu Assassin's Creed 3 Remaster, et notamment le portage de FF7 qui est annoncé pour le 26 mars, et FF9 qui est disponible dès maintenant, à savoir d'ailleurs qui sort aussi sur Xbox One dès maintenant. Alors, juste pour vous prévenir, c'est exactement le même portage dont on vous avait parlé il y a quelques mois sur PC, c'est-à-dire que c'est le portage du portage mobile, avec, vous savez, le côté gros boutons qui sont faits pour un écran tactile, avec des bugs de musique, si j'ai bien lu, chez Kotaku. Donc, bon... C'est 21 balles, faites attention quand même.
Ouais, c'est surtout ça, moi, qui me fait bondir, quoi. 21€ pour ça, mais vous foutez de notre gueule. Encore, ce serait un remaster avec des décors refaits, etc. J'irais, banco, vas-y. Ouais. Je te les paye les 21 balles. Si t'as vraiment rebossé sur les décors, tu vois, t'as payé pour des artistes pour refaire les décors, etc. Oui, parce que bon, si t'as fait bosser une IA, par contre, hein. Oui, n'est pas. Voilà, faut pas déconner non plus. Mais si t'as vraiment fourni un travail derrière, je serais ravi de te les donner les 21€. Mais là, mais va te faire foutre Square Enix, quoi. Sérieux.
C'est foutage de gueule, clairement.
Foutage de gueule complet.
C'est, ils ont épuré la licence là jusqu'au bout. Il y a plus une plateforme où elle est pas sortie. Enfin, c'est le FF7 et le FF9, ils sont de partout.
Mais ouais, mais ils ont toujours le FF8 parce que.
Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais.
Parce que,
en fait, le FF8, il y avait beaucoup de comment ils appellent ça, licensing au Japon, où il y avait des musiques sous droit. Par exemple, je crois que la musique Luminous du thème d'intro, c'est une musique qui est copyrightée, donc ils peuvent pas.
Ah, c'est pour ça.
Ouais.
Malgré plus qu'ils dépensent de l'argent en plus pour sortir
d'ailleurs,
un jeu.
D'ailleurs, à propos de problème de licensing de musique, je sais pas si vous avez vu la rage des fans de Dragon Quest sur l'annonce du portage Switch, parce que pour info, le portage Switch de Dragon Quest aura des musiques orchestrales, alors que toutes les autres versions ont des musiques en MIDI.
Oh, rude.
Et a priori, toutes les autres versions ne seront pas mises à jour. Donc les gens sont légèrement vénères et visiblement, c'est à cause de l'auteur des musiques de Dragon Quest. C'est pas la première fois que ça arrive hein, dans Dragon Quest, que des versions du même jeu sur différentes plateformes et des musiques de différentes qualités, ou même d'un pays à l'autre. Par exemple, je crois que c'est sur le 8, où en Occident, on a vu des meilleures musiques qu'au Japon. Tu vois, enfin, et le mec, apparemment... En plus d'être un personnage, bon, je vais pas aller dans le fond, mais apparemment c'est un sombre connard. Enfin bref, voilà. C'est un farouche, protecteur de son droit d'auteur. Visiblement, il est à l'origine du fait qu'on n'aura pas les musiques en orchestral sur les autres versions de Dragon Quest. Quoi.
Et d'ailleurs aussi, précision pour cette version Switch, il y aura les voix japonaises qui n'étaient pas disponibles déjà pour la version PS4 au Japon. Et dans le reste du monde, il y a eu que les voix anglaises qui sont immondes. Voilà.
Ouais, il y aura un mode 2D.
Oui. Aussi, ouais. Bah oui, le jeu qui était présenté à l'époque, qui devait sortir sur 3DS, et bah, il sera intégré sur le portage Switch. T'as l'impression que la version Switch, c'est la version ultime, en fait.
Clairement. Ouais. D'ailleurs, elle porte un nom différent, hein, c'est Dragon Quest 11S, et pas Dragon Quest 11 tout court. Et dernière chose, alors, c'était le One More Thing de ce Nintendo Direct du 13 février, et c'est l'annonce du remake de Link's Awakening, donc l'épisode sorti sur Game Boy, puis porté sur Game Boy Color. Je crois que c'est presque 20 ans après qu'on va le redécouvrir sur Nintendo Switch. Pour l'instant, on n'a pas de date. C'est un très flou 2019.
Oh, mais voilà. Vous gardez, hein. Ne sortez pas, s'il vous plaît.
La DA a beaucoup fait parler, hein, très clairement.
Bon, après, je suis pas d'accord avec ceux qui le comparent avec le remake de Secret of Mana, parce que quand même, le remake de Secret of Mana est particulièrement dégueulasse, faut pas déconner, enfin c'est vraiment jeu mobile quoi, Secret of Mana, là je trouve, alors même si j'aime pas du tout cette DA, mais alors pas du tout, enfin c'est un peu à tuer l'amour cette DA je trouve, c'est-à-dire que t'as un trailer au début en dessin animé qui te hype à mort, et puis tu vois ça, et tu fais, mais il est où mon cel shading en fait, pourquoi vous avez fait ça?
Voilà, non mais c'est exactement ça, parce qu'en fait le jeu n'est pas moche, clairement.
Non, faut pas exagérer.
Non, non, le jeu, il est pas moche. Il est très joli, mais c'est un aspect très joué en plastique. On nous montre une DA magnifique en 2D sur la cinématique d'intro. Et je me dis, ah, putain, cette shading et tout, ça doit être mortel. Et là, tu vois le jeu, tu fais, ok. Il est où le problème, là? Pourquoi vous avez pas repris la même DA pour faire un jeu en shading comme ça? Parce que surtout que vous savez le faire. Vous avez fait The Wind Waker. Ou même, au pire, refaire le jeu avec la direction artistique qu'il y avait à l'époque sur Link to the Past. Ça aurait reparlé au nostalgique et en même temps à la nouvelle génération, parce que le jeu sur Game Boy aujourd'hui, il est compliqué à trouver. Ça, c'est un Zelda qui était quand même assez différent des autres Zelda, parce que déjà, c'était un Zelda très onirique. On était comme dans un rêve. Il y avait cet aspect, t'es pas dans Hyrule. Et du coup, il y avait des trucs qui changeaient un petit peu par rapport à la licence, et c'était bienvenu.
Bah surtout qu'en plus pour le coup, tu vois, je suis pas forcément le plus grand amateur des remakes, mais là c'est un jeu qui mérite un remake, un peu comme Metroid 2 dont on avait parlé. Ouais. C'est un jeu qui est sorti sur Game Boy, les jeunes aujourd'hui, ils voient ça, ils te disent mais casse-toi avec ton vieux jeu en 2D tout pourri là. Tu leur donnes un remake, OK, il y a pas de problème. Moi je suis pour, il y a pas de souci. Si ça peut permettre aux gens de découvrir cet épisode là qui est connu pour les gens de notre génération mais qui est totalement passé aux oubliettes pour les jeunes, tu vois, c'est cool, il y a pas de souci. En fait, le problème, si tu veux, aussi, je pense, c'est que voilà, on est des vieux. Chacun s'est imaginé dans sa tête à quoi pourrait ressembler un jeu comme Link's Awakening aujourd'hui.
C'est ça.
Le truc, c'est que l'image qu'on avait dans la tête, elle ressemblait pas forcément à ça.
Non, mais comme t'as dit, c'est que le jeu, en fait, il est pas moche. C'est juste que voilà, la direction artistique, elle est très discutable. Mais moi, je suis pas en train de crier au boycott pour que le jeu ne sorte pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste un petit troll pour rigoler. Je suis très content que s'il y a des jeunes qui peuvent y jouer. Et il y a surtout cet aspect très cartoon, très enfantin, qui est cher à cet épisode. Et je pense que vraiment, si tu commences le jeu vidéo avec ce jeu-là, il y a moyen de t'amuser quand même, tu vois. C'est un
jeu. Déjà d'un point de vue gameplay, tu risques pas d'être déçu, hein, vu le matériel.
Mais par
original,
contre, ça me fait un petit peu peur aujourd'hui. De mémoire, c'est un peu vieilli, Link's Awakening sur Game Boy et Game Boy Color.
C'était c'est pas un jeu qui a la réputation d'être assez dur aussi.
Franchement, non.
Je dois confondre.
C'est
avec
pas un Zelda ultra compliqué. Enfin, c'est vraiment un Zelda classique que t'avais dans ta poche, donc il était pas plus dur ou moins dur que les autres. Hein. Enfin, de mémoire. Après,
c'est pas Zelda 2, quoi.
Avec Zelda 2 que je confonds.
Zelda 2, oui. Non, lui, c'est une purge. Hein. J'ai essayé de le faire plus tard en émulation. J'ai dit non, mais salut.
Ah, moi, je l'ai pas fait en émulation, malheureusement. Je l'ai fait à l'époque, à la dure. voilà. J'ai jamais fini à l'époque. Hein, je vous rappelle.
Il en reste des séquelles.
Alors que le 1, j'en ai de très bons souvenirs parce que je le faisais avec mon papa. Et en plus, tu sais, ils avaient mis une carte que tu pouvais dessiner. Et du coup, je l'ai dessiné avec mon papa, etc. Enfin, ça fait des souvenirs d'enfance, tout ça. Super. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fini notre 36-15 My Life, on va pouvoir enchaîner, messieurs. On va parler de THQ Nordic, hein, mon cher Ben.
Ouais, bah, THQ qui, pour changer, va racheter un petit studio. Donc, ils vont s'offrir Warhorse Studio, qui est autre que le créateur de Kingdom Come Deliverance, dont on a longuement parlé déjà ici pour différentes raisons. À noter quand même que ce jeu s'est vendu à 2 millions de copies, ce qui est pas dégueulasse. Et voilà, et donc THQ va se l'offrir pour quasi 43 millions d'euros.
Voilà, je veux poser la question, où est-ce qu'il trouve l'argent? Où avez-vous trouvé l'argent? Non, parce que, quand même, alors certes, Darksiders 3, ils sont rentrés dans leurs frais, visiblement, ils avaient bien calculé leurs coûts, etc. Visiblement, ils savent gérer un budget, tu vois. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, ils ont pas des licences de ouf malade qui leur apportent énormément de pognon. Où est-ce que vous trouvez l'argent, quoi? Sérieux, je veux savoir.
Oui, parce que pour faire un rapide topo, THQ Nordic, aujourd'hui, comprend 16 équipes équipe de développement en interne. Mmh. Ils ont plus de 2000 salariés. On peut avoir des licences notamment comme Saints Row, Dead Island, Darksider, Metro, voilà, Alone in the Dark, Time Splitter, Carmageddon, et j'en passe. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de licences. C'est quand même des mecs, on pensait qu'ils étaient morts, surtout qu'à l'époque, quand ils avaient racheté la licence THQ Nordic, on s'est dit, mais qui veut acheter ce nom-là, quoi? Tout le monde s'en foutait. Mmh. Et aujourd'hui, vraiment, enfin, le redressement, il a l'air de se passer plutôt bien. Le seul problème, c'est juste, je sais pas d'où ils ont ramené l'argent. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de la mafia là-dessous, ou bien, tu sais, on apprenne plus tard.
Bon, voilà. Après, c'est honnêtement, plus sérieusement, ils rachètent plein de licences comme ça, mais c'est des licences niche hardcore, par exemple, ils ont les gothiques, ils ont plein de licences comme ça, qui valent pas un copec, en vrai, quoi. Enfin, c'est des licences qui nous tiennent à cœur à nous. Mm-hmm. Moi, par exemple, gothique, j'adore, hein, je suis fan. Ouais. Mais en vrai, c'est des trucs obscurs, tu vois, pas hyper grand public, voilà. Donc, oui, ils ont clair. Un énorme catalogue. Mm-hmm. Mais dans ce catalogue-là, c'est soit des gloires passées, soit des licences vraiment très spécifiques. Donc, ça a pas dû leur coûter non plus.
Ouais, mais là, quand tu vois,
folles, quoi.
Kingdom Come, c'est quand même une licence qu'ils ont rachetée assez cher. Metro, c'est pas une licence qui doit être gratuite non plus. Darksiders, c'est une licence qui a pas dû coûter trop cher parce qu'elle était en liquidation. Du coup, là, ils ont fait un bon coup. Mais après, c'est sûr que les licences comme Time Splitter et Alone in the Dark, c'est des licences. Aujourd'hui, tu parles à ça à des jeunes d'aujourd'hui, ils vont dire.
C'est quoi?
Voilà, voilà. Mais alors que c'était des licences qui avaient eu un succès critique et commercial à l'époque, quoi. Qui étaient vraiment connues pour les gens de notre génération.
Tout à fait. Bon. Messieurs. Nous allons maintenant parler de Telltale. Enfin, des anciens de Telltale, mon cher Ben.
Ouais, ouais, comme on a déjà discuté ici, on connaît tous l'histoire de la fin de Telltale. Et là, donc, il y a certains employés qui ont décidé d'ouvrir un nouveau studio. Qui va s'appeler Ad Hoc Studio, et ils veulent notamment essayer de faire des choses un peu comme le dernier épisode de Black Mirror sur Netflix qui s'appelait Bandersnatch, qui est en fait un épisode interactif. Mm-hmm. Voilà, ils veulent travailler un peu en collaboration pour essayer de faire quelque chose dans le style, on sait pas exactement quoi encore, mais voilà, c'est un projet qu'ils ont, ça peut être intéressant. Nous ici, on a jamais été très fan de ce qu'ils ont fait, enfin je parle de Telltale. Pour les raisons qu'on connaît, c'est que c'était pas vraiment des réels choix qu'on faisait en fait dans l'aventure, puisque la fin était toujours la même. Donc voilà. J'imagine que Mordrain, toi, tu l'as regardé cet épisode de Netflix.
Alors, j'en ai entendu beaucoup parler et beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas top. Du coup, je l'ai pas fait.
Ouais.
Et alors, je sais. En gros, si tu veux, les gens qui jouent à des jeux vidéo, ils ont trouvé ça pas top. Et les gens qui n'ont jamais fait de trucs interactifs de leur vie, ils ont trouvé ça ouf.
D'accord. Ouais.
Et a priori, Ad Hoc Studio, ils ciblent plutôt ces gens-là.
Oui, bien sûr.
À préciser qu'ils sont que 4. Hein. C'est pas un studio qui a récupéré tous les anciens de Telltale. Et du coup, leur but à eux, c'est plus vraiment de faire du jeu vidéo, mais de se diriger vers de la production du coup audiovisuelle, avec des vrais acteurs, etc., mais sous une forme interactive, comme l'a été du coup Bandersnatch sur Netflix. Ils vont a priori bientôt annoncer un partenaire de diffusion, qui sera probablement Netflix ou un équivalent, à voir du coup s'ils réussissent à se créer leur place dans ce milieu-là. Je sais que Netflix en tout cas était plutôt content des retours sur Bandersnatch, du coup il est probable qu'ils accélèrent un petit peu sur ce créneau.
Indice, c'est un petit teaser pour la vidéo dont on va parler tout à l'heure. Mmh. Là, vous voyez, on a des gens qui auraient pu persister dans le jeu vidéo si on les avait pas traités comme de la merde, et qui finalement vont aller voir ailleurs parce qu'ils en ont un peu ras le cul. On peut voir ça comme une perte et on en repart tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le train d'enfer qu'on vous annonce, parce que croyez-moi, va y avoir du sang et des larmes, surtout pour la fin Activision, là vous allez prendre tellement cher, hein. Faut qu'on s'attaque à un dossier précis là. Non, non, parce que Sony, là, quand même, vous récidivez, là, vous foutez notre gueule, en fait. on pensait que vous aviez pris des bonnes résolutions, etc., que vous aviez arrêté d'être con. Mais en fait, non, vous nous prenez pour des cons. Parce que, clairement, voilà ce qui se passe. On a eu une interview de Sean Layden dans Game Informer cette semaine. Sean Layden, il occupe quel poste chez Sony, rappelez-moi. Il est assez haut placé, je crois.
Je crois que c'est le stagiaire.
Alors, il est président de SIE Worldwide Studio.
Voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez important, quoi. Donc, ce très cher monsieur a expliqué dans Game Informer. Alors, c'est une interview, il parle de plein de trucs, hein. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez voir un peu tout ce dont il parle. Il parle notamment du fait que Sony, à l'avenir, sortira sûrement moins de jeux, mais que ce seront des jeux plus qualitatifs. Ce qui me paraît pas déconnant, à titre personnel, mais voilà.
Par contre, par rapport à ça, il y a un truc qui me fait peur, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont mettre plus de pognon. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un jeu qui se rate, bah ça peut faire mal quoi.
Bon après les jeux Sony ils les font surtout pour vendre des consoles. Voilà. Par contre, il a sorti un truc là qui est assez mal passé auprès d'un certain nombre de développeurs. C'est qu'en gros, bah ok, le crossplay, on a été un peu surpris, tout ça. On s'y attendait pas à ce que cette feature soit tellement demandée et tout. Mais vous inquiétez pas, désormais, il suffit que vous veniez nous voir et que vous demandiez à mettre en place ce système. Et nous, on est open sur le sujet, tu vois. Il n'y a pas de souci.
Faites rentrer l'accusé.
Ce qui s'est passé, c'est que derrière, on a une sortie du boss de Chucklefish. Chucklefish, dont on parle assez régulièrement ici et qui est une boîte qu'on apprécie, hein, n'est-ce pas, mon cher Morvan? Qui a dit qu'en gros, écoutez, on a sorti un petit jeu récemment qui s'appelle Wargroove, hein, qui est un hommage à Advance Wars, tout ça. Ça fait quelques mois qu'on les tanne Sony pour pouvoir faire du crossplay, hein. Et ça fait quelques mois que Sony, il nous évite par tous les moyens possibles, qu'il nous donne des réponses vagues et que finalement, ils nous ont plus ou moins dit que non. Donc comment dire que, enfin voilà, vous nous prenez pour des jambons Sony en fait. Mais sérieusement quoi.
Non mais écoutez monsieur les développeurs, si c'était aussi simple à mettre en place et qu'il suffirait d'appuyer juste sur un bouton, nous l'aurions fait avec plaisir. Malheureusement... ce n'est pas comme ça que ça marche. Surtout, c'est quoi votre jeu Wargroove? Je connais pas. Je connais que des jeux qui commencent par Fort et finissent Night. Voilà. Merci, merci, au revoir. Merci, au revoir. J'ai pas le temps.
Franchement, voilà, c'est ce que craignait, je crois, c'est Morvan, je crois, qui craignait beaucoup ça, il me semble. C'est-à-dire que, en gros, ouais, le crossplay, c'est comme le sous-entendait ATH, pour les gros et les petits, bah, allez vous faire foutre, quoi.
Enfin, ouais, c'est ça. Bah, c'est un passe-droit, quoi.
C'est ça. Oui, et surtout, pourquoi j'ai parlé de Fortnite, c'est parce que, donc c'était en septembre 2017 où il y avait eu par accident un employé d'Epic qui a appuyé sur un bouton. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? C'est que les joueurs Xbox One ont remarqué en fait que les joueurs PS4 jouent avec eux, parce que si vous voulez, sur les pseudo Xbox et PlayStation 4, on peut pas rentrer les mêmes caractères. Sur Xbox, je crois qu'on peut pas mettre d'espace. Et ils ont vu des mecs avec des espaces, ils ont dit comment ça se fait qu'il a réussi? Donc du coup ils leur demandent sur quoi ils jouent. Les mecs leur disent bah on est sur PS4 et vous? Bah sur Xbox One. Quoi? Attends, je joue avec un mec sur Xbox, et du coup, bah, ça fait que le crossplay a bien été activé. C'est pour ça que je comprends pas du tout cette déclaration-là, surtout que ça c'est, bah, il y a eu un cas précédent qui était sorti, donc.
Après, justement, il dit que oui, venez nous voir, il y a pas de problème, on peut discuter. Oui, on peut discuter du moment que vous êtes suffisamment important pour qu'on daigne vous répondre, quoi, en fait, tout simplement.
S'il y a un intérêt, pourquoi pas.
Hein. Ah, par exemple, tu vois, je suis sûr que pour les jeux comme Fortnite, Apex, les Call of Duty, enfin les gens qui ont les moyens d'être mis en avant et qui ont des communautés assez intéressantes, bah ça va pas leur poser problème.
De toute façon, regardez, hein, les quels sont les jeux qui sont mis en avant actuellement? Fortnite, Rocket League. Est-ce que vous avez vu un petit jeu indé dans le lot là? Non, que des gros.
Bah justement, ça serait plus intéressant justement pour les jeux indépendants. Ils ont moins de communautés sur leur plateforme parce que c'est pas des jeux qui vendent à des millions d'exemplaires, sauf exception. Et ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir justement regrouper cette petite communauté par petite communauté, parce que vous imaginez, si vous regroupez les joueurs Switch, les joueurs PlayStation, les joueurs Xbox et les joueurs PC, ça sera plus facile de trouver du monde en ligne et ça sera plus intéressant et tout le monde a y gagné. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, parce que sur PlayStation 4, tu veux trouver une partie sur Fortnite, tu lances le jeu, 3 secondes après, t'es dans la game, quoi. Voilà, je déplore cette politique.
Moi, je déplore surtout le mensonge et... enfin, voilà, quoi. À un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Merci. Messieurs, on va rentrer dans le tunnel de l'enfer, préparez-vous. On va commencer par une petite vidéo que je vous recommande très chaudement. C'est Morvan qui nous l'a partagé hier soir dans le chat, mais j'aurais été courant tôt ou tard, parce que je m'en cache pas, c'est une chaîne que je finance sur YouTube. Cette chaîne, c'est celle de Monsieur Exhaust, qui fait un travail de ouf. Enfin, franchement, respect, quoi. Le gars, il fait du travail du journaliste, tout simplement. Il a pas une carte de presse, mais il fait un travail de journaliste. Et là, il s'est attardé sur un sujet que ben pas beaucoup de monde aborde. Dans le milieu des journalistes jeux vidéo. Bon, il y en a quelques-uns. D'ailleurs, il en parle dans son documentaire. Mais il y en a pas tant que ça, hein. C'est les conditions de travail dans le jeu vidéo, les syndicats dans le jeu vidéo, etc. Donc, je vous mettrai un lien dans les commentaires de l'émission vers cette vidéo. Allez la voir, c'est une vidéo qui dure un certain temps, mais c'est une vidéo qui est très instructive et qui est très bien faite. Les gens qui ont pondu un papier sur le sujet, il va les voir pour recueillir leur avis. Il va voir les syndicats de jeux vidéo, il va voir des salariés du jeu vidéo, il va voir plein de monde pour voir avec eux ce qu'ils pensent de la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, etc. D'où le lien que je faisais d'ailleurs tout à l'heure avec les employés de Telltale, parce que il faut bien qu'on réalise à un moment donné qu'on parle d'un milieu où il y a beaucoup de gens qui se barrent à 35 ans, alors que ça n'arrive pas dans d'autres industries, y compris dans l'informatique d'ailleurs, hein. Mmh. Et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se dire qu'il y a un problème et qu'il faudrait faire bouger les choses un peu. Enfin, de toute façon, pour ceux qui nous écoutent ici, vous entendrez deux, trois petites choses que vous avez déjà entendues ici, hein. Ouais. On a déjà pété des gueulantes sur le sujet, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. N'est-ce pas, Rockstar, hein? Rockstar,
hein? N'est-ce pas? Pour plus d'informations, la vidéo dure 1h10 environ. Et ouais, ce qui est cool, c'est que en fait, il n'y a pas qu'un son de cloche qui est entendu dans la vidéo, parce qu'il pose des questions à plusieurs acteurs de l'industrie. Et comme tu dis, ça, c'est un travail journalistique de fond. Mais en France, on a quand même eu des gens qui ont fait des travaux sur d'autres sujets, mais peut-être pas sur ces thèmes-là. Mais par exemple, on a eu Mediapart et Canard PC qui avaient fait du métier journaliste. Florent Gorge qui fait des très bonnes enquêtes sur le rétro, par exemple, le passé de Nintendo, tout ça, qui a un peu lancé une vocation en France, en tout cas. Et c'est intéressant d'avoir justement ce type de témoignages aujourd'hui, surtout dans la période dans laquelle on vit, avec comme tu parler avec Rockstar, quoi, qui est des conditions un peu compliquées, mais il y avait eu aussi le cas avec Quantic Dream, et je suppose que malheureusement ça sera pas les derniers, quoi.
Bah surtout quand tu vois tout ce qui est dit dans la vidéo, enfin après, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent ici, je pense qu'il y a des choses qui vous surprendront pas, mais voilà, il évoque tous les sujets. En plus, je précise, il a reçu un financement du CNC, je crois.
Ouais.
Donc voilà, il a dû montrer patte blanche, hein, pour recevoir ce financement, donc c'est pas rigolo. Morane, quelque chose à ajouter?
Ouais, en fait, moi, ce que j'apprécie dans cette vidéo, c'est que, alors certes, c'est des sujets que nous, on a régulièrement abordés, mais c'est l'aspect de formalisation tout autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que, en fait, il fait une espèce de cliché de ce qui s'est passé, en fait, dans le monde du travail, dans le jeu vidéo, mais qui, en plus, va mettre le jeu vidéo dans sa place dans la société, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dans cette vidéo et qui traitent du monde du travail dans le jeu vidéo uniquement, mais qui peuvent...
Bah, qui parlent à n'importe quel salarié, enfin moi qui bosse dans un milieu qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, bon, qui est dans l'informatique, mais voilà, il y a des choses là-dedans, je fais, ah bah oui, dès que t'as bossé un peu, voilà, il y a des choses qui résonnent, tu vois.
Et c'est vrai que du coup, ça résonne de manière beaucoup plus large que simplement le simple milieu du jeu vidéo, et là-dessus, c'est évidemment passionnant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que... il y a certaines clés qui sont présentées, c'est-à-dire que il y a une certaine vision qui est amenée vers la fin, qui nous propose une espèce de, au moins, des propositions pour avancer, quoi. Et c'est ce que j'apprécie aussi dans les documentaires d'Exhaust sur sa chaîne Game Spectrum, c'est que on n'est pas simplement dans la vision pure du c'est vraiment pas top, mais on peut rien y faire. Là, on est aussi sur, regardez, il y a peut-être des choses qu'on pourrait faire.
Ouais, et aussi il pointe du doigt des choses, par exemple, il part du documentaire Indie Games The Movie, et la manière qu'il a, c'est vrai, et je m'en étais pas forcément rendu compte à l'époque, qu'il a de glorifier le sacrifice de gars qui se crament au boulot pour créer quelque chose, tu vois.
Bah c'était un peu le cas aussi avec Cuphead, quand on avait appris que les mecs avaient hypothéqué leur maison. Enfin, moi, personnellement, ça m'avait choqué, tu vois. J'ai dit, putain, les gars, vous misez tout sur un seul jeu. Le jeu, il a beau être techniquement réussi, il y a un travail artistique derrière, mais si les gens n'achètent pas, vous êtes un peu dans la merde. Et c'est vrai que cette notion de sacrifice, je pense que on n'en a pas forcément conscience à chaque fois qu'on en parle. Ouais,
c'est des success stories à l'anglo-saxon.
Et surtout, il faut la remettre en cause, parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été très positif sur le documentaire Indie Games The Movie, et avec le recul, tu dis, merde, il a raison, quoi. Il y a des choses qui sont sous-tendues dans cette vidéo qui sont finalement assez nauséabondes. Alors, peut-être pas volontairement, tu vois, mais il y a une glorification d'une pratique qui est nocive, tout simplement.
Donc, regardez cette vidéo, franchement, vous en ressortirez grandi, même si vous connaissez tous ces sujets-là. Il y a vraiment des pistes, et puis je trouve une façon d'aborder la chose aussi bien du côté philosophique que du côté moral et sociétal qui, à mon sens, est passionnant.
Voilà. Bon, messieurs, Alors, est-ce qu'on prépare les battes de baseball? Bon, en préambule, je vais faire une autre pub pour une autre vidéo, mais bon, ce monsieur-là, il n'a pas besoin de pub parce que, voilà, il est hyper connu. Mais il résume parfaitement mon opinion, c'est monsieur Jim Sterling. Je vous mettrai une vidéo sur ce qu'il a à dire sur cette affaire. C'est tout ce que je pense sur le cas, c'est-à-dire que Activision Blizzard qui licencie 800 employés, alors que comme le souligne monsieur Oscar Le Maire sur Twitter, Oscar Le Maire, je rappelle, hein, qui était le monsieur chiffre chez Gamekult, on le voit plus assez chez Gamekult, malheureusement Gamekult, faites-le écrire plus souvent chez vous, s'il vous plaît, et qui révèle qu'en même temps, ben ils ont réalisé des profits records, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait 1,6 milliard d'euros, ils ont jamais fait autant de pognon. Et licencié 800 employés. Alors malheureusement, c'est pas le genre de nouvelle qui est spécifique aux jeux vidéo. Mais moi, ça me fout toujours autant les boules quand on a des connards comme ça, qui font du pognon à ne plus quoi savoir en foutre. En plus, qui, soit dit en passant, pour justifier certaines pratiques comme les lootbox, passent leur temps à te dire qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Hein, et qui, dans le même temps qu'ils font des profits records, mettent des gens dans la misère, parce que là c'est 800 employés aux États-Unis et on sait tous que les États-Unis, quand tu perds ton taf, t'es potentiellement énormément dans la merde, quoi.
Et en France, hein, je précise, parce que on sait que la branche de Versailles chez Blizzard est aussi concernée à hauteur de 140 personnes a priori.
Et en France, là où c'est le drame, c'est que ben on sait tous que ben les places sont chères, quoi. D'ailleurs, Exhaustor en parle aussi dans sa vidéo, vous verrez. Bref, en fait, finalement, je sais même pas quoi dire parce que c'est l'illustration à l'état pur de toutes les dérives qu'on peut voir actuelles dans le système financier, tu vois. On en parlait la semaine dernière quand je disais que les actionnaires, tout ce qui les intéresse, c'est le maximum de profit possible dans un monde limité. Bah, mais c'est ça, tu vois, c'est que on a fait du pognon, mais on n'en a pas encore fait assez. Du coup, on va virer 800 personnes pour en faire encore plus. Voilà la logique de l'univers dans lequel on vit, et moi, ça m'insupporte.
Ah, mais ce qui est le plus ironique dans l'histoire, en fait, c'est qu'ils licencient 800 personnes, mais ils vont embaucher 20% supplémentaires pour des licences telles que Call of Duty, Candy Crush, Overwatch.
Et les jeux Blizzard en général.
Ouais, voilà, mais pourquoi ne pas déplacer certains de ces personnes-là dans les studios que vous avez déjà? Enfin, c'est des mecs qui connaissent la boîte et tout.
En fait, les 800 personnes qui sont concernées, a priori, c'est surtout dans les secteurs administratifs, l'effectif de développement. Tout studio confondu, hein, parce que Activision Blizzard c'est aussi King, donc les développeurs de Candy Crush, qui du coup a priori devraient pas trop souffrir de cette vague de restructuration, parce que c'est exactement ça dont il est question. Beaucoup plus par contre tout ce qui est poste dans l'administration.
E-sport aussi.
Et l'e-sport, et alors pour le coup Blizzard est particulièrement touché de ce côté-là.
D'ailleurs, ils ont foutu un sacré bordel, hein, je tiens à le dire, toute la partie e-sport. Je sais pas si vous imaginez, quand vous créez un milieu e-sport, il y a des gens qui ont essayé d'investir une carrière là-dedans, et du jour au lendemain, t'as Blizzard qui décide de tirer ça d'un trait de plume. Voilà, encore une fois, pourquoi, à mon sens, l'e-sport ne sera jamais un sport.
Mais il y a aussi quelque chose d'assez fâcheux dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait le plus gros bénéfice de leur histoire en 2018, mais là, en fait, le licenciement aussi apparemment concerne le fait qu'il prévoit des fortes baisses en 2019. Donc, on n'est pas sûr si on va pas faire assez d'argent, mais on licencie par avance.
Oui, parce que, en fait, comme on a peur des actionnaires, c'est si ça. Tu veux, on cherche à les rassurer un maximum, quitte à foutre des gens à la merde, quoi. Bon, mais voilà, c'est...
Non, mais il n'y a pas à dire... Enfin,
rien
c'est
à ajouter,
d'enculer, quoi. C'est bon.
Exactement. Rien à ajouter. Messieurs, on passe à la suite.
Ouais.
Ouais.
ATH, est-ce que tu es prêt?
Ouais, je suis prêt.
On va s'attaquer au cas Resident Evil 2.
What the?
Is anyone here?
Jesus.
They're everywhere.
I'm giving you an order, rookie. You save yourself first.
Help me, please.
What in God's name?
Bon, mon cher ATH, alors, résumé des épisodes précédents. dans les épisodes précédents, ATH et le tyran s'accordaient sur le fait que ce Resident Evil était un bel hommage au jeu d'origine et retranscrivait bien le gameplay du jeu d'origine tout en le modernisant. Mon cher ATH, es-tu d'accord avec ce résumé des épisodes précédents et pouvons-nous procéder, s'il te plaît?
Mais oui, tout à fait Thierry, c'est un excellent remake parce que le gameplay a à la fois été modernisé par rapport au Resident Evil 2 de l'époque, mais aussi il est un peu rentré par rapport en fait au survival horror actuel. C'est-à-dire le jeu, il est un peu le cul entre deux chaises, entre ce qui a été fait avant et
entre tradition et modernité, voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, Léon ne peut pas escalader par-dessus les bureaux ou bien faire des saltos ou bien même juste, il sera obligé de faire le tour pour contourner en fait un obstacle, alors que dans un autre jeu, tu aurais pu juste sauter par-dessus l'obstacle. Il faut savoir que aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été reprises du jeu original, par exemple tout ce qui est énigme, par exemple les herbes. Là, ils ont essayé d'arranger un petit peu tout ça en t'expliquant que le commissariat de Raccoon City, c'était un peu un musée, donc il y a des passages secrets. Voilà, on en pense ce qu'on en veut, c'est pour la justification, mais au moins, ils ont essayé un petit peu de bricoler tout ça, quoi.
Voilà, ils ont essayé d'aplanir les choses, de faire rentrer tout ça en cohérence. Pour résumer, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ATH. C'est un remake qui est plutôt fidèle, qui est plutôt bien réussi. Bon, par contre, les zombies où il faut 3 milliards de balles pour les tuer, c'est pas forcément une qualité tout le temps, on va dire. Ça passe en mode normal, mais je vous garantis qu'en mode hardcore, c'est une plaie. Enfin, pour ce qui me concerne. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, si tu veux, que bon, à l'époque, Resident Evil, comme on jouait un tank, et que c'était assez difficile de viser, on avait des zombies lents, etc., qu'on pouvait tuer assez facilement du moment qu'on arrivait à les toucher.
Ouais.
Là, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une solution un peu bâtarde. C'est-à-dire que, ok, on a un personnage qui est plutôt maniable, qui vise de manière plutôt précise. Le problème, c'est que pour rendre ce gameplay-là, ils ont fait des zombies qui sont des véritables, je vais pas dire des sacs à PV, mais des sacs à balles pour le coup, tu vois. Et en plus, qui sont assez imprévisibles dans le sens où tu sais jamais combien de balles il faut pour les tuer, quoi.
C'est ça, des fois tu peux faire un headshot avec le simple flingue de base. Tu peux le tuer d'un coup. Mais des fois, il faut beaucoup plus de balles. En général, moi, ce que je fais, c'est que je tire une balle dans la tête. Je vois que le mec n'est pas mort. Du coup, ce que je fais, c'est que bah je l'ampute. Parce que le moteur physique du jeu est vraiment bien fait. C'est-à-dire que tu peux découper les zombies un peu comme dans Dead Space. Et une fois qu'il rentre au sol, bah il devient beaucoup moins dangereux. Le seul problème, c'est quand tu sais qu'il y a une salle où tu vas revenir souvent, essaye de la visiter quand même, parce que si tu le laisses au sol, il va rester là, il va, et quand tu vas revenir, et bah du coup, il y aura peut-être eu un autre événement qui va se déclencher, et du coup, il y aura d'autres zombies, plus celui-là.
Mais c'est ça qui rend le jeu intéressant, du coup, parce que tu commences à planifier, si tu veux. Tu réalises que cette salle est plutôt importante. Ok, là, ça vaut peut-être le coup que je dépense un peu plus de munitions que d'habitude. Il y a tout cet aspect gestion des munitions, par contre, qui est très bien rendu, je trouve, et qui est un vrai plaisir à retrouver, parce que finalement, le côté action de Resident Evil, moi, c'est ça qui m'avait déplu dans les épisodes récents, c'est que t'avais plus ce côté je planifie en permanence, ce côté survie, en fait. Parce que pour moi, c'est ça, la survie, tu vois. C'est pas les jeux de Morden et Ben, là, de ces morts, là, où tu vas aller...
C'est une violence, quoi.
Qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans?
Putain, comme il nous a réveillé d'un coup, là.
C'est pas ce jeu tout pourri là où tu vas récolter des trucs, où tu vas farmer des conneries, tu vois. Non, non, c'est le côté, voilà, il y a des zombies partout, faut que je gère un maximum mes munitions et faut que je m'en sorte vivant. C'est ça la survie.
Ça se voit que tu t'es jamais retrouvé au milieu de deux tyrannosaures, toi, pour dire ça, c'est sûr.
Ouais, bah, en attendant, moi, j'ai pas passé 3 heures à creuser et à construire des trucs, hein, excuse-moi.
Non, mais s'il vous plaît, reprenons le débat plus sérieusement. Le règlement de compte aura lieu après le podcast, s'il
vous
plaît.
C'est ça, parlons sérieusement, parlons des vrais jeux de survie. Voilà, merci.
Ouais, et puis et surtout, il y a une gestion assez intéressante des munitions et aussi des couteaux. Parce qu'avant, dans les anciens résidents, on avait un couteau qui était incassable. Là, il y a plein de couteaux qui sont disséminés à travers le jeu. Et quand il y a un zombie qui va t'attraper, il va essayer de te croquer, tu peux lui planter un coup de couteau pour te défendre. En gros, c'est un moyen de s'échapper.
C'est un bon moyen aussi pour tuer les zombies à terre.
Oui, mais sauf que tu peux pas le faire tout le temps. Enfin, tu peux le faire pour un ou deux, mais après, t'auras plus de couteaux forcément. Surtout que l'inventaire est limité. Là, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport au jeu original, on a des sacoches maintenant qui vont compléter l'inventaire. Du coup, t'es pas obligé d'avoir à chaque fois qu'un pauvre flingue plus 25 clics dont on a rien à foutre et d'attendre d'avoir ouvert toutes les portes pour que tu puisses enfin l'acheter. Tu vas planifier un peu ta progression dans le jeu et savoir si tu peux porter une arme ou deux ou trois en fonction des éléments que tu auras besoin. Ça, c'est le côté assez chouette, je trouve, de ce remake quand même.
Par contre, juste par rapport au couteau, spoiler alerte, c'est l'arme la plus craquée du jeu. Hein.
Oui.
C'est un peu un cheat, hein, ce dont j'ai parlé, donc si vous voulez pas entendre parler, revenez dans une minute. En gros, le couteau, les dégâts qu'il fait sont liés au framerate.
Ouais.
C'est-à-dire que dans le speedrun du jeu, il y a des mecs qui débloquent le framerate et qui tuent les boss au couteau parce qu'il fait des dégâts de psychopathe.
C'est ça.
Ah oui, d'accord. J'avais oublié qu'on était dans un jeu japonais. Il y a encore des gens en 2019 qui lient les dégâts d'une arme au framerate. Non, mais voilà, c'est...
Non, mais déjà en 2013, voilà. 2014, j'étais choqué dans Dark Souls 2 que la version PC qui tournait à 60 FPS, son arme s'est cassée deux fois plus vite que la version console parce que les FPS. Tu vois, tu te dis, ok, ça c'est que des trucs japonais. J'ai plus de souvenirs de ça avec les japonais que les occidentaux. Mais pour revenir sur Resident Evil 2, donc il y a cet aspect vraiment gestion qui est très intéressant. Par contre, moi, il y a un petit truc qui me chagrine par rapport au jeu de base, c'est que j'ai l'impression que Raccoon City, la partie Raccoon City a été beaucoup trop écourtée.
Bah elle a été complètement zappée, hein. Ne serait-ce que le scénario B, t'as même plus, tu sais, la petite partie qu'on a au début dans le jeu, dans les rues de la ville, tu vois, et qui dure 2 secondes en plus, alors que dans le jeu original elle était beaucoup plus longue. Là ils te mettent carrément une cinématique. Hop, ça y est, t'es arrivé au commissariat. Hein, quoi, pardon.
Oui, tu fais 25 mètres et t'es arrivé, quoi. Il y a plus cet aspect où tu vois le chaos est imprégné de tout ça avant d'arriver dans le commissariat. Tu te dis, oh, ok, le commissariat, ça va être un peu plus tranquille.
Ah, fouf, je suis arrivé, ouais. C'est ça. Non, là, pas du tout, quoi. On a complètement perdu cette aspect.
Et puis après,
là,
dans le jeu, au bout d'un moment, tu repasses un petit peu par Raccoon City, mais c'est un très bref instant. Il n'y a pas de grande menace à ce moment-là. C'est un peu dommage par rapport au jeu de base qui avait réussi vraiment à introduire cette atmosphère, parce que surtout que dans le premier Resident Evil, on était bloqué dans un manoir confiné. Là, du coup, on était un peu plus ouvert. On s'est dit, putain, est-ce que ça va être un open world pour l'époque? Alors que non, en fait, après, c'était très structuré. Mais c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas réussi à rendre cette partie de Raccoon City jouable, quoi.
Ouais. Par contre, moi, il y a un aspect que je trouve extrêmement réussi et qui a pas plu à tout le monde.
C'est quoi?
Mais moi, je trouve justement que cet aspect-là du jeu, il arrive pile poil au moment où je commençais à rentrer dans mon train-train quotidien, on va dire. Ouais. Et je pense que, ATH, tu sais de quoi je parle.
Est-ce que ça serait Mister X?
Ah bah, c'est totalement Mister X. Mister X qui n'était pas accessible tout de suite dans l'original, si je me souviens bien, parce qu'il fallait finir le jeu une fois, je crois.
Je crois qu'il était disponible uniquement dans le scénario B de chaque personnage, mais là c'est un souvenir
qui
remonte.
Oui, mais en plus, de toute façon, Mister X à l'époque, je veux dire, voilà, les chargements des portes.
Ouais, et puis c'était à l'époque, il était scripté, alors que là, t'as l'impression que c'est plus le Nemesis du 3 qu'ils ont intégré dans ce remake, parce qu'il te poursuit vraiment partout dans le commissariat. Mais le pire, c'est qu'il te poursuit, mais c'est pas un ennemi ultra rapide qui va dasher sur toi. C'est-à-dire que le mec, il fait encore plus flipper parce qu'il marche au ralenti. En gros, j'en ai rien à foutre de ce que
tu veux. C'est génial, ce truc, quoi. Autant j'avais critiqué la semaine dernière toute la partie flingue, etc. Je reviens pas là-dessus. Ouais. Mais par contre, les pas de Mister X. Alors, autant c'est un jeu qui m'a pas fait peur jusque-là, mais le moment où Mister X est arrivé, là, j'ai ressenti la peur.
Bah, surtout le moment, enfin, ça, on va pas le spoiler, le moment où on le voit la première fois dans le jeu. Mais t'es là, tu fais... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au revoir. Et en fait, ce qui est cool, c'est que toi, tu cours, du coup, pour t'échapper, mais lui, il marche, donc du coup, tu t'es dit, putain, je suis pas bien déjà. Il marche tout doucement, mais tu entends ses bruits de pas. Et il joue au casque, pour moi, ça fait une grande différence parce que la spatialisation du jeu est vraiment très bien faite et tu peux deviner à peu près où ce qu'il est.
À côté de toi, quoi.
Non, mais la plus grande frayeur du jeu que j'ai eue, c'est quoi? C'est parce que Mister X, en fait, si vous faites pas trop de bruit et tout, et vous êtes un peu planqué dans le commissariat, ça va, il va pas trop venir vous faire chier, il saura pas où vous êtes. Mais si vous amusez à tirer sur les zombies et tout, il va entendre le bruit et du coup il va venir où vous êtes.
Et même quand tu cours, s'il est pas trop loin, il t'entend.
C'est ça. Et moi, ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que bah je me balade dans le commissariat, j'essaie de résoudre mes petites énigmes par-ci par-là, et là je tombe nez à nez avec un liqueur. Je fais oh merde. Mais sauf que là il y avait deux liqueurs. Je fais ok, j'essaie de passer discrètement, et là pas de bol, il y en a un qui commence à me choper. Là je sors le fusil à pompe, je commence à faire un carnage. Je me retourne derrière moi, putain, j'entends Mister X. Je fais, qu'est-ce qui se passe? J'ai Mister X derrière, j'ai deux liqueurs devant moi. Les liqueurs, c'est les ennemis emblématiques de Resident Evil 2 qui peuvent s'accrocher au mur, qui sont aveugles, mais qui ont une portée de malade et qui sont ultra rapides. Du coup, si vous voulez fuir avec eux, bah, bonne chance. Donc, du coup, en fait, le jeu, il fait pas peur, mais il m'a stressé par rapport à ça. C'est-à-dire que, il y a des situations où tu t'es dit, est-ce que je tente le coup d'essayer de finir la salle rapidement pour pouvoir passer à autre chose sans attirer Mister X, ou bien est-ce que je fais un détour pour essayer de jouer avec lui? Et ça, c'est un truc vraiment qui est assez intéressant, et il te suit du début à la fin du jeu. Il y a certains moments où il y a une pause, en fait, c'est scénaristiquement...
Mais par contre, rassurez-vous, si vous dites « Ah non, moi je veux pas jouer à un jeu où je passe mon temps à stresser parce qu'il y a un connard qui me poursuit en permanence », il y a des moments quand même où le jeu vous laisse respirer.
C'est
parce
ça.
Que c'est vrai que sinon, au bout d'un moment, ça deviendrait quand même pénible, quoi, je pense. Mais moi, il y a des gens, tu sais, qui ont critiqué cet aspect du jeu, qui l'ont trouvé insupportable. Et qui critiquent aussi le fait qu'il est un peu couillon, Mister X. Parce qu'en vrai, Mister X, il est assez facile à éviter finalement.
Oui.
Mais là où je suis pas d'accord avec pas mal de gens, c'est que, mais finalement le danger c'est pas tellement Mister X, c'est les ennemis combinés à Mister X.
C'est ça.
Il vient rajouter le petit grain de sable, tu vois, qui peut faire complètement arrêter la machine. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que, en fait, Mister X, il arrive à un moment dans le jeu où tu commences à maîtriser. Ok, le plan du commissariat, je l'ai dans ma tête.
T'es un peu dans tes chaussons,
quoi. Je sais par où je vais passer, etc. Ouais, voilà, c'est, tu deviens un peu pantouflard, quoi, tu vois.
Mm.
Et là, t'as Mister X qui arrive, qui donne un bon gros coup de poing sur la table et qui dit non, non, ça va pas être simple comme ça. Et en fait, tu te rends compte que grâce à Mister X, t'essayes d'exploiter la map. Ok, d'après ce que j'ai entendu, il doit être à peu près là. Au lieu de passer par le chemin habituel, je vais peut-être passer par là-haut, etc. Tu réfléchis à la map, à la spatialisation dans le commissariat. Et ça, c'est très intéressant parce que ça te pousse à réfléchir sur le jeu et son game design, quoi, en fait.
C'est ça. Et ce qui est intelligent, c'est qu'au début, comme tu l'as dit, ils t'ont laissé explorer le commissariat bien comme il fallait.
Tranquille.
Tu connais bien les raccourcis. Du coup, quand Mister X, il arrive, t'es pas, genre, en panique totale. Tu sais où est-ce qu'il faut passer, à peu près où est-ce qu'il est. Et du coup, toi, ça te permet de jouer avec lui. Et heureusement que Mister X est un peu con. Parce que si le mec était trop intelligent et te poursuivait partout.
Ce serait insupportable.
Voilà. Et même.
Ce serait insupportable.
Si même le fait qu'il courait partout derrière toi, qu'il avait par exemple la vitesse d'un liqueur, mais là, ça serait quasiment impossible pour un mec, sauf à part si le mec c'est un speedrunner ou un mec qui veut vraiment un défi, un challenge vraiment hardcore, il y aura pas moyen. Mais pour quelqu'un qui veut juste faire le jeu avec l'histoire, je trouve que c'est une bonne petite dose de stress qui est rajoutée sans non plus être un obstacle insurmontable. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont très bien suggéré. D'ailleurs, en parlant de choses qu'ils ont bien gérées, je trouve qu'ils ont bien géré aussi les effets d'ombre et de lumière avec le jeu. C'est-à-dire que le jeu de 98 était un jeu très lumineux. Hein. Ils ont dit, ok, vous connaissez le commissariat de Raccoon City. Là, on va le plonger un peu plus dans le noir. Et du coup, il y aura certaines salles où vous n'aurez pas trop visibilité. Et ça, je trouve qu'il y a ces petits côtés-là qui rajoutent un petit peu au côté survival qui avait un peu disparu dans la série quand c'était devenu des jeux purement action. Et ça fait du bien de revenir, même si c'est pas un jeu qui fait peur. Après, là, c'est vraiment subjectif parce que la peur, c'est quelque chose de subjectif. Mais de revenir un peu aux origines.
Non, mais les Resident Evil, à part peut-être le premier, c'est jamais des jeux qui ont essayé de faire peur, quoi.
Ah, moi, je connais des gens qui ont peur devant ces jeux-là.
Non, mais je peux comprendre qu'on ait peur dessus, si tu veux, mais c'est pas Silent Hill, quoi. Enfin, au bout d'un moment, quoi. C'est plus des jumpscares, etc. Et le problème des jumpscares, si tu veux, c'est que quand t'es un peu rodé à ce genre de jeu, les jumpscares, ça marche plus trop, quoi. Enfin,
d'ailleurs, là, dans celui-là, il me semble qu'il y a pas trop de jumpscares, ou bien, j'ai pas.
Bah, justement, moi, c'est ce que j'ai apprécié, tu vois.
Oui, moi aussi.
C'est que les moments où j'ai vraiment pas été bien, notamment à cause de Mister X, le mec, je veux dire, il m'annonçait son arrivée, hein. C'est pas comme s'il essayait de se cacher non plus, tu vois, en plus, hein.
C'est ça,
parce qu'il te dit, ouh, je suis là!
Je vais te défoncer.
Voilà, c'est ça. Moi, il m'a fait flipper, par contre, parce que, tu sais, quand t'as casse sur la tête et que t'entends les pas arriver, enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi.
Ouais, voilà, c'était une stress parce que tu disais, putain, j'ai pas assez de munitions, j'ai pas, et là, il y a deux liqueurs qui m'attendent derrière la porte. Là, il y a 4 zombies que j'ai laissés en plan.
Bah, disons que c'est pas une peur malaisante comme je peux en avoir dans. Bon. C'est plus une peur en mode putain, mais comment je vais faire pour m'en sortir, quoi. Merde.
Je trouve que ça fait parfaitement écho avec la gestion justement de l'inventaire et des munitions qui est couplée à ça. Justement, ça permet d'avoir les sensations qu'on avait eues à l'époque en 98 où il fallait vraiment gérer un petit peu tout ce bordel. Surtout que l'inventaire était très limité. Et ce que je disais, entre tradition et modernité, c'est-à-dire que là, ils ont gardé cet aspect-là. Il y a toujours des allers-retours, mais c'est un petit peu moins contraignant qu'à l'époque. Ils ont un petit peu amélioré ça. Et je trouve que globalement, en fait, finalement, le rythme du premier run sur Resident Evil 2, quand tu découvres vraiment le commissariat et ses alentours, le rythme, en fait, il n'y a pas vraiment de temps mort. Enfin, il y a les temps morts qui sont liés aux énigmes et tout ça.
Mais justement, des temps morts qui sont bienvenus,
c'est
en plus.
C'est ça, voilà. Et je pense qu'en fait, vraiment, la première fois que tu fais le jeu, tu fais, ah putain, c'est déjà fini, ok. J'ai pas vu le temps passer, c'était cool parce que le rythme était bien dosé.
Oui, et justement, il y a des gens qui ont trouvé qu'il était trop court, mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, il se termine, mais pile poil au bon moment.
C'est ça.
C'est pas genre, c'est déjà terminé, oh là là, qu'est-ce que c'était court. C'est déjà terminé, putain, j'ai passé un super bon moment, j'ai pas vu le temps passer, quoi.
Le jeu de base à l'époque était comme ça aussi, hein. Les gens, je sais pas ce qu'ils
c'est pas un jeu super long, hein. Les gens oubliaient, mais
oui. Pour moi, en fait, il est cohérent avec ce qui a été fait à l'époque. Et moi, vraiment, le gros reproche que j'aurais à faire, en fait, à ce Resident Evil 2, c'est le fait qu'ils ont pas uniformisé, en fait, les scénarios de Claire et de, comment il s'appelle, Léon. Parce que c'est pas que...
Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, parce que je rappelle qu'on l'avait dit dans un épisode précédent, on était persuadé que les scénarios de Claire et Léon était unifié, en fait.
C'est ça.
Surtout qu'en plus, là, je trouve que, du coup, quand tu fais le scénario B, il y a des incohérences qui apparaissent dans l'histoire, tu vois.
Ouais.
il y a ce personnage-là que t'as tué, qui apparaît là, enfin, oui. Il y a plein d'incohérences comme ça qui sont là. Bon après, c'est clair qu'on joue pas non plus à Resident Evil pour le scénario, si tu veux.
Non mais c'est pas question
mais
de scénario, c'est question de crédibilité en fait dans...
De crédibilité de l'univers, tout simplement.
C'est ça. Parce que quand tu repasses 4 fois la même salle et que tu rebats encore 4 fois le même boss dans chaque scénario à chaque fois, bon d'abord tu fais ok, bon, c'est cool pour débloquer les nouveaux modes, mais j'en ai un petit peu marre, quoi.
Mais finalement, pour moi, c'est le même principe qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'en gros, le scénario B, c'est une difficulté supplémentaire qui ne dit pas son nom,
c'est ça,
tu vois,
ouais.
Avec un changement des items que tu vas trouver dans la run, mais c'est tout, c'est rien de plus que ça, quoi. C'est un mode de difficulté qui ne dit pas son nom. Et d'ailleurs, à propos de difficulté, moi, si j'avais une recommandation à vous faire, et ça sera aussi un de mes reproches, jouez-y en normal. En hardcore, très sincèrement, moi, je ne prends pas de plaisir sur le jeu. Le côté sac à PV des zombies, il est pas top. Enfin, il est insupportable, je trouve.
Déjà qu'en normal, ils sont déjà assez de PV. Et en hardcore, si c'est, faut leur mettre deux fois plus de balles, c'est compliqué. Mais moi, ce que je reproche aussi par rapport à ce mode-là, c'est que ils ont pas dissocié la sauvegarde par rapport à la difficulté du jeu.
C'est le problème que j'ai, parce que moi, en fait, ça m'a frustré. Je voulais la difficulté du mode normal, mais je voulais le mode de sauvegarde à l'ancienne. Parce que je trouve que la sauvegarde, c'était une difficulté supplémentaire, mais qui était bienvenue et qui aurait apporté au côté gestion du jeu.
C'est ça.
Mais par contre, pour avoir cette sauvegarde-là, alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas joué aux anciens Resident Evil,
oui, c'est vrai,
la sauvegarde dont on parle, c'est le système de ruban encreur. C'est-à-dire que dans tout le jeu, tu vas récupérer des rubans encreur pour mettre dans les machines à écrire. Et ces rubans encreur sont limités. Donc le nombre de sauvegardes dans le jeu est limité. Mais c'est tout le principe de Resident Evil. D'ailleurs, c'est un jeu qui est fait pour le speedrun, hein, très clairement. Tu comptes le nombre de sauvegardes que tu fais. Ça ajoutait à l'aspect survie du jeu. Tu vois, c'était intéressant. Et ça, malheureusement, tu ne peux l'avoir que si tu prends la difficulté maximum du jeu. Tu ne peux pas l'avoir dans le mode de difficulté normal. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. J'ai vu des gens y jouer, et ça les a écœurés du jeu, en fait. Parce qu'ils s'imaginaient que c'était un mode hardcore, mais un mode hardcore d'aujourd'hui.
Ouais,
c'est-à-dire, c'est le mode normal de l'époque, tu vois, en fait.
C'est ça.
Mais non, non, c'est vraiment un mode hardcore, quoi. J'ai vite arrêté parce que je me suis dit non, c'est pas intéressant, je m'amuse pas. Voilà.
Pour terminer, je pense que j'aurais une dernière petite question à te poser. C'est qu'est-ce que t'en as pensé un peu des musiques du jeu? Parce que j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus.
Alors, je vais te faire une réponse qui veut tout dire. Je m'en souviens plus.
Ok.
Non, mais sincèrement. Hein,
ça manque un petit peu d'ambiance musicale. Je comprends pourquoi ça a été fait.
Le parti pris.
Le parti pris, parce que c'est pour laisser un peu plus de... Comment dire, l'ambiance sonore qui est faite par les zombies, les différentes créatures, les entendre grogner au loin, ça ajoute un petit peu d'éléments de panique, mais par contre, je trouve que le jeu manque cruellement d'identité musicale. Quand on avait parlé de la démo, j'avais fait, tu sais, le fameux titre d'écran d'accueil de Resident Evil. Et là, pour avoir cet écran titre avec cette voix-là, il faut payer les musiques originales du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu de base, tu n'as même pas le droit à ce fameux slogan, tu vois, de Resident Evil. Et je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Le jeu manque un petit peu de composition musicale, un petit peu marquante. C'est-à-dire, même quand tu vas dans la salle de sauvegarde avant, t'avais cette petite musique qui tournait en boucle. Là, tu arrives dans la salle de sauvegarde, il y a la musique qui va se tourner 3 secondes peut-être. Et puis après, elle va disparaître, elle va plus jamais revenir. Et j'ai fait, pourquoi vous avez fait ça, quoi? Parce qu'il y a des jeux qui font ça un petit peu comme on l'a cité pas mal de fois ce soir, mais c'est Dark Souls. Dark Souls, pendant que tu te balades dans le monde, il n'y a pas de musique. Mais au moment quand tu affrontes un boss, il y a des musiques qui te disent là, tu vas affronter ce boss-là. Et du coup, tu sais que cette musique-là est associée à tel boss. Et là, je trouve que dans Resident Evil 2, ça manque de passages comme ça. Avoir un passage culte du jeu d'origine, avec une certaine musique, je pense que ça aurait été mieux. Et c'est tout. Enfin, je trouve que ça manque un petit peu d'identité musicale et c'est un petit peu dommage pour un jeu aussi culte que Resident Evil 2, quoi.
Bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un jeu, en tout cas, qui va avoir du succès en speedrun. Déjà, Resident Evil 2, à l'époque, c'était un jeu à speedrun pour moi.
Ouais, même le premier, même le...
Et d'ailleurs, tu vois, le jeu a du succès chez les speedrunners en ce moment.
Ouais, d'ailleurs, petite anecdote, moi, j'ai fait le speedrun du jeu, alors que je suis pas du tout un mec qui s'amuse à speedrunner les jeux. Combien j'avais fait? 1h34, il me semble. Avec le flingue de base et sans sauvegarde et sans me soigner surtout. J'ai mis un petit peu de temps pour acquérir la technique et tout. Mais tu vois, c'est un jeu qui m'a donné envie de speedrunner alors que je suis pas du tout un mec qui speedrun. Bon, je pense pas que je vais me lancer dans une carrière de speedrunner sur Resident Evil 2. C'était un jeu, déjà à l'époque, j'avais essayé de speedrunner aussi, tu vois, dans mon coin en casu. Et je trouve que c'est un jeu qui se passe parfaitement, comme tu l'as dit. Ouais, c'est un petit kiff ce jeu-là, de le revenir aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Après, c'est pas un jeu qui va être incroyable comme le remake du premier Resident Evil qui, à l'époque, avait foutu une claque à tout le monde. Parce que, déjà rien que, techniquement, sur GameCube, c'était impossible de voir tourner un truc comme ça. Là, aujourd'hui, le jeu est très propre, le moteur est très beau. J'ai pris un bon moment. C'était un peu ma Madeleine de Proust qui n'a pas été une déception. Et je suis très content pour ça.
Rien à ajouter. Bon, messieurs, on va s'arrêter pour cette semaine.
Ouais.
Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao.
Salut.